Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 11 mars 1811, la flotte française fait naufrage sur l'île de Lissa. Au début de l'année 1811, en Adriatique, l'île de Lissa, aujourd'hui Vis, en Croatie, sert de base aux frégates et corsaires anglais qui entravent le commerce maritime français. Pour Napoléon Ier, la situation est intolérable. Il ordonne de constituer une division navale à Venise, de s'emparer de Lissa et d'y établir une base française. Pour conduire cette opération, le ministre de la Marine, Denis Decret, met le capitaine de vaisseau Bernard Dubourdieu à la disposition du prince Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie. La flotte franco-italienne se compose de 3 frégates françaises, de 44 canons. La Favorite, navire amiral, la Danae et la Flore, mais aussi de 3 bâtiments placés sous pavillon italien. La frégate Corona, accompagnée des corvettes Bellona et Carolina. Quelques navires auxiliaires complètent le dispositif. À bord se trouve une force de débarquement commandée par le colonel Alessandro de Reghe, dit Giflanca, aide de camp du prince Eugène. Elle compte 570 hommes. Le 11 mars, à 23 heures, la formation appareille du port d'Ancône. Le lendemain, en fin de journée, elle est à une vingtaine de miles nautiques de Lissa. Le 13 mars, à 2h30, des navires sont signalés à proximité de la flotte franco-italienne. Au lever du jour, une force anglaise se découvre sous le vent. Elle est dirigée par William Host, un brillant officier de 31 ans, disciple de l'amiral Nelson. À 8 heures, la frégate Favorite donne le signal du combat. Elle tente de couper en deux la ligne ennemie. Au moment où le navire français arrive sur la frégate Amphion, où se trouve Host, une puissante décharge d'artillerie balaie le pont sur lequel sont regroupés les hommes destinés à monter à l'abordage. Dubourdieu est tué par une décharge d'obusier. À 11 heures, la Favorite s'échoue sur la pointe sud-est de l'île de Lissa. Le colonel Giflanga prend le commandement du bâtiment français. Le combat naval continue en ordre dispersé. Le capitaine Jean-Alexandre Péridier, qui dirige la Flore, perd son bras gauche. La corvette Bellona et la frégate Corona tombent entre les mains des Anglais. Les bâtiments britanniques se dirigent vers la Favorite, qui riposte à leur feu avant d'être incendiée par son équipage. Le colonel Giflanga évacue les blessés, puis débarque les troupes sur Lissa. Avec une centaine d'hommes, il marche sur le port de Saint-Georges, capitale de l'île. Les Français s'emparent d'un modeste bâtiment et rejoignent l'île voisine de Lésina. Les autres frégates attaquent les Anglais sans succès, subissant d'importants dommages. À la fin de la journée, la Flore et la Danae se réfugient à Lésina, où les rejoint la corvette Carolina. La division franco-italienne compte 700 hommes hors de combat. Les Anglais ne déplorent que 45 tués et 145 blessés. Touché au bras, Host refuse de quitter le pont de sa frégate avant la fin du combat. Napoléon affirmait « J'ai des vaisseaux, mais je n'ai pas de marine ». Paradoxalement, il semble peu affecté par l'échec de Lissa. En effet, le 20 mars, 101 coups de canon annoncent la naissance de l'Aiglon, le nouvel espoir de l'empereur. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire, un jour trois livres présentés, préparés par Emmanuel, que j'aurai le plaisir de vous présenter. C'est Alain Chamfort qui nous accompagne en chanson durant cette émission. Nous écoutons Clara veut la lune, extrait de son album Neuf, c'était en 1993.
Clara veut m'entendre, inventer des mots tendres. Je devrais à chaque instant la surprendre. Et mademoiselle parle de se pendre, s'il faut attendre. Clara veut l'été, de mars à février, pour que les grillons cessent pas de chanter et que ces gambettes soient bronzées.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour, trois livres qui a été préparé par Emmanuel comme chaque semaine. Nous commençons par Bye Bye Geneviève de Geneviève Dubosc, c'est publié aux éditions Salvatore. La famille Dubosc, c'est le père, garde barrière du passage à niveau 104 de la ligne Paris-Cherbourg, qui est à l'ouest de Sainte-Mère-l'Église, file tout droit vers le nord, au milieu des marais. La mère, la fille, Geneviève, et son petit frère, Claude. Pour eux, le jour le plus long a commencé plus tôt que pour tous les habitants de la Basse-Normandie. Exactement le 5 juin 1944, vers 22h, quand ils virent tomber du ciel les premiers parachutistes américains chargés de s'emparer de Sainte-Mère-l'Église et que le mauvais temps avait déporté dans la zone inondée par les Allemands. Devant le désastre qui s'annonçait, les Dubosc volèrent au secours des hommes en passe de se noyer. Ils sauvèrent 350 hommes des 82e et 101e Airborne Division, qui, 30 ans après, les recherche encore. Ils les retrouvèrent et le 5 juin 1977, à Sainte-Mère-l'Église, lors des cérémonies commémoratives du débarquement, le général Hocker, représentant les États-Unis, remit à Papa Maurice et Madame Dubosc et à Geneviève le diplôme et les médailles de la valeur militaire américaine. Geneviève n'a rien oublié de cette nuit terrible et de ce qui s'ensuivit. Elle avait 12 ans. Elle découvrait la guerre et ses grands garçons qui mâchaient du chewing-gum et riaient comme des gosses. Elle découvrait la joie, l'amour, la souffrance, la mort, avec dans l'oreille et le cœur le « bye-bye » d'Agenvin que les GIs lui lancèrent en partant. Bye Bye Geneviève de Geneviève Dubosc s'est publié aux éditions Salvatore. L'art de la résistance de Julius Rosenberg aux éditions Divergence. Justus Rosenberg est un jeune juif de 19 ans, de culture allemande, étudiant à la Sorbonne. Lorsque les nazis lancent la campagne contre la Belgique, et impose bientôt l'occupation au nord de la France. Dans la zone sud, c'est le régime antisémite de Vichy qui le rattrape. Porté par son courage et le hasard des rencontres, Justus se fraye un chemin vers la résistance. D'abord à Marseille, où il organise l'exil d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels menacés par le nazisme, au sein du célèbre réseau Varianfrei, tels Heinrich Mann, Marc Chagall, Alma Mahler et André Breton. Puis depuis le maquis, qui jusque dans les bataillons de la Libération. Ce sont donc ces mémoires de guerre, rédigées tardivement, celles d'un homme d'action devenu professeur de littérature à l'université de Bard aux États-Unis. L'art de la résistance de Justus Rosenberg s'est publié aux éditions Divergence. Et pour terminer cette chronique, une double faute de Pascal Tournier aux éditions Le Cherche Midi. En 1943, François, haut fonctionnaire de l'administration de Vichy, est nommé directeur de l'économie générale. La même année, il quitte sa femme Gabrielle et son fils Jean-Philippe, pour Jeanne, une actrice juive au charme incandescent. François a-t-il commis une double faute en servant le maréchal Pétain et en vivant pleinement sa passion? Aux yeux des siens, il mérite une double peine, celle de l'opprobre, puis celle de l'oubli, jusqu'à ne devenir qu'une silhouette évanescente sur les albums de famille. Face au silence, sa petite-fille s'interroge, enquête, tente de comprendre et retrace la vie d'un homme tourmenté et plus complexe qu'il n'y paraît. Ce roman, c'est l'enquête sur un passé dont l'ombre continue de planer sur les générations suivantes. Une double faute de Pascal Tournier s'est publiée aux éditions Le Cherche Midi. Ainsi s'achève cette émission Historama, merci à Thomas qui l'a réalisé, et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Alain Chamfort. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, Bon baiser d'ici. C'est un extrait de l'album Secret glacé, paru en 1983.
Bon baiser de Russie, de vodka je t'écris ces mots transis. Ces mots d'ici, Ivanovna, je n'ai que toi. Fatale, peine capitale.
secret, cet espionnage jet. Secret classé, secret, secret, sous-marin soviet. Secret classé, secret, secret, un baiser. Oh,